Chers amis, bonsoir. Très, très content de vous voir. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que le lundi, plus que jamais, on a l'impression de combattre une armée, pas vrai? Le lundi matin, on aurait dit que l'armée française est assise sur notre estomac quand on vient se lever, pas vrai? Je ne sais pas pourquoi le lundi est dur comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ce jour-là? On aurait dit que le réveil du lundi est toujours plus difficile que les autres. Alors, quand je vous vois là le lundi soir, je me dis, c'est magnifique. Je me dis que nous bénissons Dieu parce que je sais que ce n'est pas facile, c'est un jour difficile. Mais sachons que Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan à nous révéler encore ce soir. Dieu veut encore nous parler ce soir. Jésus veut encore nous dire des choses ce soir. Et je crois que nous avons bien fait d'être là. Ce soir, nous aborderons un sujet qui est parfois difficile à aborder, car nous abordons des choses qui sont liées parfois à un attachement sentimental. Nous avons commencé depuis hier soir à nous poser une question et à travailler sur un thème. La question était celle de Jésus. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et nous avions conclu que Dieu, au milieu d'un monde qui est en déliquescence morale et spirituelle, Dieu cherche et Dieu a toujours cherché un peuple sanctifié, un peuple mis à part, un peuple qui n'hésite pas, si c'est nécessaire, à être différent, à être singulier, parce que c'est un peuple qui n'est pas différent simplement pour être différent. Parce qu'on peut être différent simplement pour être différent, simplement pour se faire remarquer. On peut être différent simplement pour embêter son entourage. Non, le peuple de Dieu ne cherche pas à être différent pour ces raisons-là. On est différent parce qu'on a choisi, en tant que peuple, en tant qu'enfant de Dieu, de suivre la parole plutôt que les traditions et les philosophies de l'homme. Le peuple de Dieu, à la fin des temps, celui que Jésus va trouver qui a la foi et qui a gardé la foi dans un monde qui ne l'a plus, c'est un peuple qui ne fonctionne pas selon le principe de la majorité, parce que la majorité n'a pas toujours la vérité. Regardez ce que la Bible nous dit en introduction. Lisez avec moi le livre de l'Exode au chapitre 23. Un texte qui montre que la majorité n'a pas toujours la vérité, la majorité n'a pas toujours raison. Il ne faut pas simplement aller dans un camp parce que c'est le camp majoritaire. Quand on va dans un camp, on y va après avoir réfléchi, après avoir sondé et après avoir choisi d'y aller. Vous lisez avec moi le livre de l'Exode au chapitre 23, verset 2. « Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. » Vous savez que très souvent, nous fonctionnons à contrario de ce verset. Nous avons tendance à pencher du côté de la majorité. Je suis dans une entreprise, je suis dans un lycée, je suis dans un collège, je suis dans un quartier. Alors, puisque la majorité décide de faire comme cela, eh bien, je fais comme ça. Je suis dans un pays, la majorité va dans ce sens pour ne pas qu'on me traite différemment, que je sois pointé du doigt. Eh bien, je me mets du côté de la majorité, même si j'ai l'impression que la majorité ne défend pas la vérité. Les enfants de Dieu n'ont pas ce fonctionnement. Les enfants de Dieu ne se laissent pas conduire par la majorité, par la mouvance, par le train de ce monde. Ils sont conduits par le désir de la vérité. Et ce qui est dit dans l'Ancien Testament est dit encore dans le Nouveau Testament. Regardez, Cette fois, nous lisons dans 3 Jean, la troisième lettre de Jean. Il écrit presque la même chose. La troisième lettre de Jean, chapitre 1, verset 11, il dit, « Bien-aimé, n'imitez pas le mal, mais le bien. » Je reprends. 3 Jean 1, verset 11, « Bien-aimé, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, et celui qui fait le mal, il n'a point vu Dieu. » La Bible nous appelle à ne pas imiter le mal, mais à imiter le bien. Chers amis, je ne voudrais pas que quelqu'un soit mal à l'aise. Mais si nous nous posions la question sérieusement, ma manière de manger, ma manière de m'habiller, ma manière de me coiffer, ça vient d'où? J'imite qui? Je suis l'exemple de qui quand je fais ça? Est-ce que ta coupe de cheveux, ton style vestimentaire, ton vocabulaire, est-ce que cela vient de ton choix ou est-ce que ça vient d'une mouvance que tu suis? Je vous donne un seul exemple. Il y a une expression aujourd'hui qui a envahi toutes nos phrases. Il n'y a pas de souci. Je me trompe ou pas? Dans toutes les phrases aujourd'hui, vous entendez toujours, il n'y a pas de souci, pas de souci. Mais il y a 5 ans, c'était rare d'entendre cette expression. C'était même exceptionnel. Il y a 5 ans, peut-être qu'on disait, il n'y a pas de problème. Et puis maintenant, on a changé. Il n'y a pas de souci. Et je ne sais pas, mais Martinique paraît être moun qui n'y souci encore. Je plains les esthéticiennes. Alors, des fois, on n'analyse pas toujours, mais notre parler, notre habillement, notre manière de manger, notre manière d'être, de nous comporter, souvent, ça ne vient pas de nous. C'est parce que nous sommes pris dans un flot. Il y a une mouvance, il y a une mode, et puis on est pris dedans. Mais la question qu'on doit se poser en tant que chrétien, quand je me laisse emporter par une mouvance comme cela, est-ce que je prends le temps de me questionner pour me dire d'où cela vient? Je suis une mode, je suis une pratique, j'adopte un vocabulaire, mais cela vient d'où? Cela vient du bien ou cela vient du mal? Alors que la Bible dit, bien-aimé, n'imitez pas le mal, mais imitez le bien. Et regardez comment la Bible renforce encore. Dans l'Épître aux Corinthiens, la première aux Corinthiens, Paul déclare au chapitre 11, qu'est-ce qu'il dit? Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Par conséquent, mes amis, le chrétien devrait imiter une personne et une seule. Jésus-Christ. Si le chrétien imite quelqu'un, c'est quelqu'un qui a d'abord imité Jésus. Parce que Paul dit, imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Donc, le modèle par excellence, ce n'est pas Paul. Le modèle par excellence, c'est qui? C'est Jésus. S'il y a quelqu'un à imiter, c'est Jésus. Et regardez ce que la Bible dit concernant Jésus. Il y a une prophétie concernant Jésus dans Ésaïe chapitre 53. Regardez ce que la Bible dit concernant Jésus dans Ésaïe 53, verset 2. Ésaïe chapitre 53, verset 2. Ésaïe étant un prophète, il a prophétisé sur le Messie. Il a prophétisé dans le chapitre 53 sur comment serait le Messie. Alors, voici un beau texte que vous pourriez peut-être lire ce soir avant de dormir. Ésaïe 53. C'est un très beau texte. Et il y a une portion dans ce texte qui parle du Messie en ces termes. Ésaïe 53, verset 2. Il s'est levé, donc le Messie, Jésus, il s'est levé devant lui, donc devant Dieu, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mes chers amis, aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, c'est le culte de l'image. Le culte de l'image. Le culte de la personne. Aujourd'hui, ce qu'il y a de plus important, on aurait dit, c'est l'aspect, c'est l'apparence, c'est l'image que je dégage. Et quand vous regardez, parfois le budget que certains consacrent pour cultiver leur image, leur plastique, on se dit vraiment que c'est véritablement un culte, le culte de l'image. Tandis que Jésus, qui est notre modèle par excellence, c'est ce que nous venons de dire, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il est venu avec simplicité, qu'il n'avait ni beauté particulière, il n'avait ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Oh, je vous en supplie, ne partez pas d'ici et allez dire que mon Sauveur était un homme négligé. Je vous en supplie, si vous voulez être des hommes et des femmes négligés, ne vous appuyez pas sur ce verset. Mon Sauveur était certainement propre. Amen. Mon Sauveur était certainement soigneux. Amen. Mais tout en étant propre, soigneux et certainement élégant, Jésus n'était pas dans le culte de l'image. Ce qui comptait le plus pour le Christ, ce n'était pas son apparence, c'était ce qu'il dégageait de l'intérieur. Jésus cultivait davantage sa parure intérieure que sa parure extérieure. Et les chrétiens sont appelés à faire de même. Les chrétiens de la fin des temps, comme les chrétiens du début, sont appelés à faire de la même chose que Jésus, cultiver la parure intérieure. Regardez comment la Bible le dit. D'une manière très simple, dans 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3, et nous allons prendre quelques minutes sur ce verset. 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4, la Bible dit, vous avez trouvé? Pierre, c'est vers la fin de la Bible. 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. Qu'est-ce que nous lisons? Voici l'invitation que les apôtres, inspirés par l'Esprit, voici l'invitation qu'ils envoyaient aux chrétiens, qu'ils nous envoient, qu'ils t'envoient. L'invitation qu'ils m'envoient aussi. Que dit cette invitation? Ayez, non, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Lisons la suite. Mais ayez plutôt la parure comment? Intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Cultiver en priorité quoi? La parure intérieure. Revenons sur le début du verset. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Faisons une pause. Et disons-nous une chose. Les tresses dont il est question ici, ce ne sont pas les tresses que nous avons et que nous connaissons de nos jours par ici. Ces tresses-là étaient autrement plus sophistiquées, autrement plus élaborées et surtout, on mettait dans les cheveux à cette époque des perles, des pierres précieuses et des fils d'or. La parure, la chevelure, la coiffure dont il est question ici, c'était vraiment une coiffure ostentatoire et qui affichait quelque chose. Il y avait des perles, il y avait toutes sortes de bijoux, il y avait des fils d'or dans les cheveux. Alors, si aux Antilles, quelques-uns portent détresse, que personne ne soit culpabilisé. Seulement, je veux dire une chose quand même à celles qui portent détresse. Si tu prends 4 heures de temps pour faire détresse, parce que ça prend du temps, pas vrai? Pose-toi la question, combien de temps tu prends pour lire ta Bible? Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de tresse, ce n'est pas ce que je dis là. Vous êtes bien d'accord avec moi? Mais je dis que si nous arrivons à consacrer 4... Pourquoi elle rit beaucoup, cette dame-là? Je ne sais pas. C'est vrai que ces tresses sont très jolies. Hein? Mais si, simplement, c'est ce que nous devrions nous dire. Comment je peux m'asseoir 4-5 heures de temps pour faire des tresses et quand je prends la Bible, au bout de 15 minutes, je pêche des lambis? Il y a un problème, mes amis, il y a un déséquilibre. Cela signifie qu'en quelque part, il y a un problème. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas mettre de tresse, mais je ne peux pas consacrer plus de temps à ma coiffure qu'à ma culture spirituelle. Et surtout pas moins d'argent. Je ne peux pas consacrer. Quand tout souvent on parle à l'église d'acheter des guides d'études pour les enfants ou même pour les adultes, quand on parle d'acheter une Bible de temps en temps, vous vous rendez compte, une Bible magnifique, fibre au cuir, tranche or, onglet, gros caractère, 40 euros. Qu'est-ce qu'on dit? Faut ça cher. Je vous ai déjà dit, il ne faut pas me faire rire, ce n'est pas bien ça. Voyez, vous me déconcentrez. Pour la Bible à 40 euros, c'est du vol. C'est trop cher. C'est trop cher. Mais je ne sais pas combien on paye pour se coiffer, et moi-même qui vous parle. Quand je suis venu ici dans cette église, je me coiffais moi-même. J'avais acheté une tondeuse, 15 euros, je faisais mes affaires moi-même. Mais tellement il y a ici des gens qui m'ont cassé les pieds. Pour me dire, pasteur, tu as un trou par ici, tu as un trou par là. Ceux qui rient beaucoup par là, c'est eux. Alors, j'ai été obligé, et Dieu m'a béni, j'ai trouvé un bon coiffeur. Super bon coiffeur. C'est vrai, il est bon. La tête n'est peut-être pas bien, mais le coiffeur, ça va. Bon, alors voilà que j'ai moi-même trouvé un coiffeur et je me rends compte que finalement, à 2 coupes par mois, eh bien, je suis pratiquement à 25 euros. C'est très bien, je vois que mon pianiste est content maintenant. Mais alors, je me dis, mais est-ce que 25 euros pour me coiffer par mois, mais si je dois acheter un livre de méditation, un livre de lecture, si je dois participer à quelque chose à la vie de mon église pour que l'église soit éclairée, qu'il y ait de l'eau dans les toilettes, si je dois participer à quelque chose, eh bien, je ne peux pas participer à moins que je ne participe pour mon image, que pour moi, nourriture intérieure. La Bible nous appelle à cultiver la parure intérieure, mes chers amis. Et vous savez, ce n'est pas valable seulement pour les femmes. C'est valable aussi pour les hommes. Regardons ce que la Bible dit. La Bible parle dans le livre des Proverbes, au chapitre 19 et au verset 22. La Bible dit, dans Proverbes 19, verset 22, « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est quoi? Son 4x4, sa cravate, ses bagues. » Non, la Bible dit, « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. » Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La Bible est claire. Ce qui fait le charme d'un homme, ce n'est pas les mécaniques qu'il roule. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa manière d'être. C'est le fait qu'il soit juste, qu'il soit bon, etc. Et je voudrais entendre que toutes les femmes disent
Amen.
Alléluia. En vérité, mes amis, le charme d'un homme, d'un être humain, ne devrait pas passer avant tout par ce qu'il porte, ce qu'il a, mais par ce qu'il est, ce qui se dégage de lui, ce qui vient de son cœur. et la manière de traiter les autres. C'est ça qui fait d'abord et avant tout le charme d'un homme. Et vous savez, mes amis, concernant les bijoux, aujourd'hui, les bijoux sont portés parfois sans même qu'on sache quelle était la signification première du bijou que je porte. En tout cas, ce soir, prenons quelques minutes pour nous éclairer sur la question. La Bible nous appelle à ne pas cultiver la parure extérieure faite de bijoux, faite d'habits somptueux, faite de coiffures extraordinaires, mais la parure intérieure. Mais mes amis, les bijoux, dans la Bible, comme vous le lisez, les bijoux sont souvent associés à l'orgueil et à la superstition. Vous allez le voir avec moi si vous prenez vos Bibles dans le livre d'Ésaïe au chapitre 3. Les bijoux sont souvent associés dans la Bible à l'orgueil et à tout ce qui est superstitieux. Prenez vos Bibles, si vous voulez bien. Prenons Ésaïe, chapitre 3. Est-ce que quelqu'un veut une Bible pour lire? Levez la main, on va vous la donner tout de suite. C'est bon? OK. Il y a juste une main, on va donner une Bible à cette personne. Lisons. Ésaïe au chapitre 3. Et regardez comment, à quoi les bijoux sont associés dans ce passage et dans les autres que nous lirons après. Ésaïe chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 16. Ésaïe 3, verset 16. Vous y êtes? Ésaïe chapitre 3 au verset 16. La Bible dit, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion... Sion, c'est un autre nom pour Jérusalem. Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner quoi? Les boucles de leurs pieds. La personne qui est présentée ici, c'est une personne orgueilleuse. Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, elles marchent le cou tendu. Elles marchent à petits pas. Elles font résonner les boucles de leurs pieds. Si j'étais plus courageux, je choisirais une demoiselle dans la salle pour lui dire de venir mimer la scène. Mais je ne suis pas assez courageux pour le faire. Mais vous comprenez bien qu'il s'agit là d'une personne qui se dandine, qui se pavane, une personne qui est fière et une personne qui est orgueilleuse. Et regardez comment cela se manifeste dans sa vie. La Bible dit au verset 17, Ésaïe 3, 17, « Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. » Verset 18, « En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les filets et les croissants. » Tout ça, ce sont des broches ou des bijoux qu'on mettait dans les cheveux. Ensuite, qu'est-ce qu'il est dit encore? « Les pendants d'oreilles. » Les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteur et les amulettes. Arrêtons-nous là. Dieu dit, votre orgueil se manifeste parce que vous êtes parés de bijoux, parés de chaînes, parés de pendants et vous carrez. C'est ce que Dieu dit, très simplement. Et alors, vous avez noté, vient un mot là dans la description où on dit que toutes ces choses sont associées aux amulettes. Mais c'est quoi une amulette? Regardez la définition que j'ai trouvée pour vous. Amulette est un mot qui vient du mot latin amuletum, qui signifie quoi? Façon de se protéger. Quand vous dites amulette, vous dites façon de se protéger. Donc, en résumé, une amulette, c'est quoi? C'est un objet qu'on porte sur soi et auquel on accorde des vertus de protection ou qui porte chance. Mes chers amis, regardez comment le même verset est traduit dans la Bible en français courant, lorsqu'il est parlé d'amulettes et de chaînes, etc. Regardez ce que la Bible dit, la Bible en français courant, Ésaïe 3, verset 20. Dieu dit, je vais faire quoi? Enlever les turbans, les chaînettes, les ceintures tressées, les gris-gris et les porte-bonheur. Donc, une amulette, c'est un gris-gris, c'est un porte-bonheur. Et vous avez vu que la Bible fait une liaison entre les bijoux et les gris-gris et les porte-bonheur. Est-ce que ça vous surprend? Non, ça ne devrait pas nous surprendre, surtout pas en Martinique. Parce qu'en Martinique, il y a bien des gens qui portent leurs bijoux simplement pour un côté esthétique. Mais vous avez bien des gens qui portent des bijoux et ces bijoux sont des gris-gris. Vous avez un tas de gens qui ont des chaînes avec un médaillon et puis c'est quelque chose qui a été arrosé en quelque part. Vous avez bien des gens qui ont des chevalières, des espèces de bagues. Mais parfois, ce sont des choses qui sont là dans un but bien précis. C'est un gris-gris. C'est quelque chose qu'on a fait tremper en quelque part. Vous êtes étonné de cela? Vous ne vivez pas dans le pays, alors? Mais si, ne faites pas comme si vous ne savez pas et que c'est le pasteur seulement qui dit ça. Vous aussi, vous savez ça. Il y a bien des gens qui, jusqu'à présent, ont des bijoux qui ne sont pas là pour un côté esthétique, mais qui sont des gris-gris, des amulettes, des protections. Et vous avez vu ce que la Bible dit? La Bible dit déjà au départ que les bijoux sont associés à cela, et les bijoux sont associés à l'orgueil, le matu vu, la représentation de soi. Poursuivons la lecture. Ésaïe chapitre 3. Qu'est-ce qui est dit au verset 21? Dieu parle aussi contre les bagues. Ésaïe 3, 21. Les bagues et les anneaux du nez. Alors souvent, on voit apparaître des modes et puis on pense que c'est maintenant qu'on a découvert ça. Mais mes amis, on n'a rien découvert maintenant. Tout ce que vous voyez se faire maintenant se faisait déjà depuis l'Antiquité. Mais il faut savoir une chose. Aujourd'hui, nous le faisons parce que nous suivons. Mais dans l'Antiquité, il faut qu'on se pose la question, pourquoi les gens ont commencé à mettre des boucles d'oreilles? Pourquoi les gens mettaient des anneaux dans leur nez? Pourquoi ils faisaient ça? Posons-nous la question. La Bible nous dit pourquoi. Parce que ces choses étaient assimilées à des gris-gris, à des porte-bonheur. Mais mes amis, il faut que vous le sachiez. Il faut que nous le sachions que les bijoux, au départ, dans l'Antiquité, sont bien souvent attachés à des questions de spiritisme et des questions de, je vous ai dit le mot tout à l'heure, j'ai perdu le mot, de superstition. Laissez-moi vous lire quelques lignes de certaines recherches que nous avons pu faire pour vous. Au départ, le bijou a une valeur économique. Le bijou est considéré dans l'histoire, dans l'Antiquité, comme étant quelque chose pour montrer son statut social, mais le bijou a rapport aussi avec la séduction, mais le bijou a rapport aussi avec le spiritisme et un brin de superstition. Laissez-moi vous donner deux, trois exemples. Concentrez-vous bien. D'abord, lisez et retenez qu'il nous est dit que dans l'Antiquité, plusieurs peuples considérait le nez et les oreilles comme des voies d'accès de l'esprit. Donc, il pensait qu'un esprit, quand il rentre en toi, il rentre par tes oreilles, parce que c'est un trou qui est sur la tête et ça va directement dans ta tête. Ou bien, l'esprit rentre par ton nez. Et c'est une des raisons que plusieurs peuples dans l'Antiquité, ils ont commencé à porter des gris-gris, des amulettes dans les oreilles et dans le nez. Aujourd'hui, on voit des gens qui percent leur nez, leurs oreilles, mais qui ne se soucient pas de ça. Mais au départ, c'était des protections, des gris-gris pour empêcher aux esprits d'entrer dans l'homme par le nez et par les oreilles. Ensuite, parlons un tout petit peu de ce qui est considéré comme les boucles d'oreilles chez l'homme. Voici ce qui nous est dit. Aujourd'hui, les hommes portent des boucles d'oreilles sans se soucier. Mais il faut savoir qu'au début, les premiers qu'on a connus portant cela, c'était souvent des marins. Les marins qui portaient des boucles d'oreilles. Et ils ont commencé très tôt. Et pourquoi est-ce qu'ils portaient ces marins? Ces marins, pourquoi est-ce qu'ils portaient les bijoux? Eh bien, vous allez voir, il y a des choses plus ou moins comiques et des choses plus ou moins tristes. D'abord, le marin, en portant une belle boucle d'oreille, disait « Si je meurs loin de chez moi, même si je n'ai rien en poche, au moins sur mon corps, on va trouver quelque chose de valeur qui va payer le croque-mort, on pourra faire mon enterrement. » Ça, c'était une raison. La deuxième raison, c'est que le marin souvent portait cela comme une espèce de protection, parce que c'était pour eux un moyen de se protéger de la noyade et de conjurer le sort. Ensuite, vers les années 80, l'homme portait une boucle d'oreille. L'homme qui portait une boucle d'oreille était considéré un petit peu comme un voyou, un bad boy. Et puis après, ça a pris une signification. Porter la boucle d'oreille dans l'oreille droite disait « J'appartiens à une communauté sexuelle et je suis disponible. » C'est le message que ça portait au début. Mais aujourd'hui, on ne s'en soucie pas. Mais je vous invite, mes amis, soyez curieux. Allez dans des librairies ou dans des bibliothèques. Allez, si vous voulez, sur Internet et posez la question, quelle est l'origine du port de beaucoup de ces choses? Eh bien, vous verrez qu'au départ, il y a une signification, soit mystique, soit superstitieuse, soit parce que je veux dire à quel groupe j'appartiens. Aujourd'hui, on ne s'en soucie peu et on porte des choses n'importe comment. Mais même dans la Bible nous fait comprendre que lorsqu'on porte des boucles d'oreilles, les gens qui portaient à l'époque de Dieu les boucles d'oreilles, eh bien, quand Dieu les appelle à venir à lui, Dieu les appelle à se dépouiller parce que les boucles d'oreilles, les bijoux, étaient souvent associés, comme nous l'avons dit, au spiritisme et à l'idolâtrie. Lisez avec moi ce qui suit. Lisez avec moi ce qui suit dans le livre de la Genèse, au chapitre 35. Ah non, mais je ne vous accuse pas, madame. Je parle de l'histoire, ça c'est vous qui voyez. Maintenant, je dis ce qui est dans des livres d'histoire et dans la Bible. Non, non, ne faisons pas de débat, ne vous justifiez pas. Je ne vous demande pas raison de vos choix, madame. J'expose simplement la Bible et ce qui est dans l'histoire. Alors, je poursuis en disant, dans Genèse 35, versets 1 à 4, lisons ce qui est dit. Genèse chapitre 35, versets 1 à 4. Parce qu'il nous faut savoir ce que nous faisons, d'où ça vient et si nous continuons à le faire. Genèse 35, versets 1 à 4. Regardez bien ce qui est dit et comprenez bien, mes amis, chaque parole. C'est la Bible qui parle. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais nous vivons dans un état de droit. Chacun fait ce qu'il veut. Genèse 35, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. » Bethel, c'est une ville, c'est un lieu. « Monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel, pas autel H-O-T-E-L, autel A-U-T-E-L. Autel A-U-T-E-L, c'est un lieu de culte. Dieu dit à Jacob, « Va à Bethel et là, tu vas monter un lieu de culte. Tu vas monter un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Est-ce que la consigne est claire que Dieu lui donne? Dieu lui dit, « Tu vas à Bethel et là, tu vas monter un autel. Un autel pour le culte. » Quand on monte un autel, c'est pour quoi faire? C'est pour rendre un culte à Dieu. C'est pour adorer Dieu. C'est pour faire des offrandes, c'est pour se donner à Dieu. Regardez bien cela. Dieu appelle son peuple, son enfant, son fils à venir pour un culte. Et quand Dieu les appelle à venir pour un culte, qu'est-ce qu'il leur demande de faire? Lisez avec moi au verset 2, s'il vous plaît. Jacob dit, à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez quoi? Les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. La première chose que Dieu demandait qui est claire, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. C'est comme si Dieu leur dit, mes amis, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir deux dieux. Vous ne pouvez pas offrir deux cultes. Vous montez à Bethel pour m'offrir un culte. Vous montez à Bethel parce que vous allez me dresser un autel. En même temps, vous ne pouvez pas avoir sur vous d'autres dieux. C'est ou bien moi ou bien eux. Choisissez. La Bible est claire jusqu'à présent. Oui ou non? Oui. Ensuite, lisons le verset 3. Le verset 3 dit, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Verset 4. Qu'est-ce qu'on leur a demandé? Dites-moi, mes amis, je voudrais que vous soyez au clair sur la lecture. Qu'est-ce qu'on leur a demandé d'enlever? Pardon? Les dieux étrangers, vous êtes bien d'accord? On leur a dit, vous devez enlever les dieux étrangers. Mais maintenant, au verset 4, qu'est-ce que vous lisez qu'il donne à Jacob? Qu'est-ce qu'il donne à Jacob? Il donnera à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit, c'est-à-dire les enterra, sous le térébinthe qui est près de Shichem. Le térébinthe, c'est un arbre. Mes amis, suivez bien le jeu et le mouvement qu'il y a dans le texte. Dieu rencontre Jacob. Dieu lui dit, Jacob, tu vas aller à Bethel, tu vas dresser un autel et tu vas m'offrir un culte. Jacob dit, d'accord, pas de problème. Mais Jacob connaît Dieu et Dieu lui parle et on lui fait comprendre, tu ne peux pas monter à Bethel pour adorer le vrai Dieu et en même temps avoir des idoles sur toi. Vous devez vous débarrasser des idoles. C'est ce qu'on leur demande, de se débarrasser des dieux étrangers. Mais notez que la Bible dit que quand ils se débarrassent des idoles, des dieux étrangers, et qu'en même temps, ils donnent leurs boucles d'oreilles. Ça veut dire quoi? Quand quelque part, les boucles d'oreilles étaient associées à l'idolâtrie, étaient associées à la superstition. Et quand je monte vers Dieu, quand je vais rencontrer Dieu, je me dépouille de ces choses. Et vous notez bien, mes amis, dans le premier mouvement, on ne leur demande pas d'enlever leurs bijoux. Ce qu'on leur demande d'enlever, ce sont les dieux étrangers. Mais comme les bijoux sont associés aux dieux étrangers, ils enlèvent le tout en même temps. Oui, mes amis, je sais que c'est peut-être troublant ce que vous entendez, mais ce que vous entendez vient de la parole de Dieu. Et la Bible nous donne encore une indication qu'il nous faut prendre en compte. Je vous invite à lire cette indication avec moi dans Exode chapitre 21, versets 1 à 6. Et je crois qu'au moins nous, Martiniquais, nous qui avons eu des ancêtres esclaves, nous serons sensibles à ce texte. Lisons Exode 21, Genèse, Exode chapitre 21. Et lisons à partir du verset 1er. Regardez, il y a plein de choses à noter dans ce que nous allons lire. Exode, chapitre 21, versets 1 à 6. Vous avez trouvé? Exode 21, 1 à 6. Je lis avec vous. Voici les lois que tu leur présenteras. Donc Dieu dit à Moïse, voici les lois que tu vas présenter à mon peuple. Regardez, verset 2. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. Parce que la Bible disait, un homme pouvait avoir des dettes. Et comme il ne peut pas payer ses dettes, il se vend comme esclave à quelqu'un. Il dit à la personne, j'ai trop de dettes vis-à-vis de toi. Je suis ton serviteur pendant 6 ans. Tu ne me payes pas et comme ça, je vais te dédommager. Mais la 7e année, cet homme devait sortir comment ? Libre. Ensuite, verset suivant. Verset 3. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Mais si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et l'esclave sera pour toujours à son service. Dans la Bible, l'oreille percée est le signe d'un esclavage volontaire. Est le signe de quelqu'un qui a dit « Je décide de rester esclave de telle personne. » Oh, mes chers amis, que personne ne se sente coupable, car nous n'avons pas toujours choisi ce qui nous est arrivé. Parfois, nous sommes là avec les oreilles percées parce que ça a été fait quand on n'avait même pas conscience. Et puis, on nous a éduqués dans une pratique. Et puis la société nous fait croire que pour être belle, il faut être ainsi, que pour être beau, il faut être ainsi. Et puis alors, on s'est habitué avec une image de soi-même, avec ces choses, ces ornements. Et on se voit mal sans ces choses-là. Quand on se regarde dans le miroir sans ça, on se sent mal. On se dit, mais je ne suis pas belle, je ne suis pas appréciable comme ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que tu n'es pas belle sans bijoux. C'est simplement que tu as tellement pris l'habitude de te voir avec que tu penses que c'est comme ça que tu es bien. Ton cerveau est formaté. Mais si tu dis, je ne suis pas là pour suivre la majorité, si tu dis, Jésus est mort pour moi, et s'il fallait avoir des oreilles percées, Dieu m'aurait percé les oreilles depuis dans le ventre de ma mère. Et si tu dis, oui, on m'a appris cela, on m'a enseigné toutes ces choses, mais ce soir, je découvre autre chose. Ça me choque, ça me bouleverse. C'est pourquoi c'est avec beaucoup d'humilité que je présente ces choses-là. Ne souhaitant que personne ne se sente mal à l'aise, revenez demain soir avec vos bijoux si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas non plus être prédicateur de l'Évangile et ne pas présenter cela aussi, mes amis. Et voici, chers amis, la question, elle est toute simple. On m'a formaté comme cela. La majorité va dans ce sens. Mais est-ce que parce que la majorité va dans ce sens que c'est la vérité? Est-ce que parce qu'on m'a mis ça depuis tout petit et que je suis habitué avec, est-ce que c'est forcément comme ça que je dois être? Vous savez que nous ne sommes pas comme ça pour toutes choses. Parce que très peu d'entre nous, nous étions défrisés quand nous avions 5 ans. Très peu d'entre nous, nous avions des rajouts quand nous avions 5 ans. Ça veut dire que là, on a venu, on a rangé encore en manière, on a encore un style personnel, pas vrai? Et pourquoi on ne ferait pas ça pour autre chose aussi? Même si on m'a enseigné ça, même si on a mis ça sur moi depuis que je suis petit, mais je peux me débarrasser et je peux maintenant prendre ma vie en main, prendre mon corps en main et dire, voilà, mes parents ne savaient peut-être pas ce que moi je sais ce soir. Mes parents n'avaient peut-être pas reçu comme moi cet enseignement, mais moi je l'ai reçu et je fais mes choix. Je m'appartiens, je ne suis pas une majorité, je suis moi-même. Mais mes amis, prenez le temps qu'il vous faudra. Analysez la Bible. Faites des recherches sur l'histoire des bijoux dans l'Antiquité et vous verrez, vous ne pouvez pas échapper à cette vérité. Les bijoux dans la Bible et dans l'Antiquité sont associés à l'orgueil, sont associés au spiritisme et sont associés à tout ce qui est superstition. Vous ne pouvez pas y échapper et je ne peux pas vous dire autre chose. Maintenant, je peux vous dire une chose, c'est que Jésus nous aime tous. C'est que Jésus vous aime et que Jésus vous aime et qu'il veut que vous soyez sauvés. Jésus veut que vous puissiez lui appartenir. Et Jésus vous dit, prends courage, viens à moi. Oh, c'est vrai, tu vas entendre des remarques tellement désagréables. Des gens vont te dire, mais où l'aide comme ça? Ou pas belle comme ça? Qui m'en est venu là? Ou fade? Mais ce n'est pas vrai, mes amis. Ce n'est pas vrai. Nous, belle manière, bon Dieu fait nous. La beauté, ce n'est pas un critère invariable. On ne peut pas croire que belle, c'est comme ça, et puis un point, c'est tout. Chabine de longs cheveux, taille 45, etc. Non, ce n'est pas vrai. Ni toute qualité belle moun. Ni belle moun 42, ni belle moun qui a fait 56. Mais oui, la beauté, ce n'est pas un critère invariable. On est comme on est, il faut s'accepter, s'assumer. Et comme on dit chez nous, chaque pain a son fromage. Mais oui, mes chers amis. Mais ce soir, Jésus dit une chose. Jésus dit, peut-être que tu ne l'as pas mis pour ça, que tu ne le fais pas pour ça. Mais il faut que tu saches à l'origine, ces choses sont associées à ça. Et si maintenant tu te déclares une personne qui veut venir au culte du Seigneur, si maintenant, comme la famille de Jacob, tu te sens appelé à dresser un autel à l'Éternel, pour appartenir à l'Éternel, eh bien, tu ne peux pas faire autre chose que la famille de Jacob. Tu dois te débarrasser des dieux étrangers. Tu dois te débarrasser de tout ce qui tend à prendre la place de Dieu, de tout ce qui veut prendre la place de Dieu, de tout ce qui a un rapport dans sa conception même avec des superstitions. Mais mes amis, je vais vous dire une chose. À l'époque du peuple biblique, les gens mettaient des bijoux, des boucles d'oreilles, des boucles dans le nez pour se protéger des esprits. Dieu dit à son peuple, ce n'est pas ce qu'il faut mettre dans vos oreilles pour vous protéger des esprits. Mais vous savez, Dieu est tellement bon, mes amis, quand il enlève une chose, il donne une autre chose à la place. Quand Dieu dit à son peuple, ne mettez pas des boucles d'oreilles, ne mettez pas des boucles dans votre nez, ne mettez pas des amulettes pour vous protéger, il leur dit, je vais vous donner une autre protection. Je vais vous donner quelque chose d'autre que vous mettrez dans vos oreilles et qui va vous protéger. Vous voulez voir ce que c'est? Regardez avec moi. La Bible dit dans Exode chapitre 15, vous êtes déjà dans Exode, au chapitre 15. Regardez ce que Dieu nous donne, ce que Dieu veut que nous puissions mettre dans nos oreilles, qui va remplacer tous les gris-gris, qui va remplacer tous les porte-bonheurs. Dieu va nous donner quelque chose qui va remplacer tous les signes d'orgueil, d'appartenance à une classe sociale, de montrer en quelque part sa fortune. Dieu va nous donner quelque chose d'autre, parce que Dieu ne dépouille jamais sans remplacer. Exode chapitre 15, au verset 22, voilà ce qu'il faut faire de son oreille pour être protégé. Exode chapitre 15, au verset 22, lisez avec moi. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Où est-ce que le peuple va, mes amis? Dans un désert. Dans un désert, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de supermarché. Il y a des serpents brûlants. Le peuple est en train d'aller dans un endroit dangereux, un endroit hostile. Regardez la suite. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Vous avez vu? J'avais bien de raison de dire qu'ils vont dans un endroit hostile. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. 3 jours qu'ils marchent dans le désert. Ils ont soif. Ils voient de l'eau. Quand ils viennent, l'eau est amère. Est-ce qu'ils sont en souffrance, mes amis? Oui. Regardez la suite. La Bible dit au verset 24, « Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous ? » Mais Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple les lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Oh oui, mes amis, si tu traverses ton désert, si tu es près des eaux de Mara, la superstition ne fera rien pour toi. Le spiritisme ne fera rien pour toi. Par contre, l'Éternel peut purifier les eaux de Mara pour toi. Si tu es à côté d'un vase amer, si ces jours-ci ta vie est amère et que tu n'arrives pas à boire ta vie, crie à l'Éternel comme Moïse. Et l'Éternel va t'indiquer un bois qui va adoucir ta vie, qui va transformer ta vie. Et regardez la suite. La Bible dit au verset 26, l'Éternel parla et il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, qu'est-ce que Dieu va faire pour toi? Et si tu observes toutes ces lois, Dieu dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, comment? Près de l'eau. Dieu dit à son peuple, mes amis, si vous voulez le bonheur, ce ne sont pas les amulettes et les porte-bonheur qui vont vous donner ça. Laissez vos oreilles tranquilles. Ce qu'il faut mettre dans vos oreilles, c'est la parole de Dieu. Et si vous mettez la parole de Dieu dans vos oreilles, Dieu dit, je ne vous frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé l'Égypte. Oh, mes amis, ne nous trompons pas. Dieu n'est pas en train de dire aux chrétiens, si vous êtes fidèles, vous ne serez jamais malades. Ce n'est pas ce que Dieu dit là. Vous avez bien vu que Dieu dit, je ne vous frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé l'Égypte. Quelles sont les maladies dont l'Égypte a été victime à cause de Dieu? Eh bien, ça a été que l'eau du Nil s'est transformée en sang. Ça a été qu'il y a eu des invasions de sauterelles. Ça a été qu'il y a eu des grelots qui ont tout détruit. Ça a été la mort du premier-né. Et les Égyptiens, mes amis, si vous voulez des bijoux, si vous voulez des amulettes, si vous voulez des superstitions, si vous voulez du quinbois, c'est en Égypte qu'il faut aller. Parce qu'à cette époque, eh bien, c'est là qu'on trouvait cela. Ils avaient des quantités de dieux. Le Nil était un dieu. Chaque chose était un dieu. Ils avaient des magiciens. Lisez le livre de l'Exode, vous verrez. Et malgré tous ces magiciens, malgré tous ces gris-gris, lorsque l'Éternel a décidé de les frapper, aucun magicien n'a pu les protéger. Et quand Dieu dit, si tu écoutes ma parole, je ne vais pas te frapper des maladies d'Égypte, Dieu est en train de dire, si tu écoutes ma parole, si tu es avec moi, les maladies d'Égypte ne vont pas venir sur toi, c'est-à-dire personne ne pourra envoyer des plaies contre toi. Et c'est pourquoi, mes amis, certaines personnes disent, oui, mon yon bag, mon fayo travail libre à moi, c'est pour protéger moi. Parce que vous savez, ni moun ka tiran les moi, ni moun ki machin, ni moun ki ceci, ni moun ki ni en gauche et puis en gros médaillon. Parce que yon ka dit, oui, c'est pour protéger moi, parce que moun ka tiran les moi. Ni moun ki ni tout kalte gri-gri, fèche ou val en baloto yo, tout kalte gri-gri, tout kalte amulette. Mais, ça pa kay protège ou frè mwen. Ça pa kay protège ou sè mwen. Mais mettez la vie ou en la main, bon Dieu. Harmonisez la vie ou et puis parole, bon Dieu. Et pièce maladie d'Égypte pa kay tombe en l'eau. Personne pa kay savre et pièce kalte modèle de chien bois en l'eau. Si tu es un enfant de Dieu, tu es protégé. Tu es gardé. Et le Seigneur même dit, les plaies d'Égypte ne vont pas te frapper. Oh, mes chers amis, lorsque Dieu nous demande de nous purifier, lorsque Dieu nous demande de lui appartenir, ce n'est pas pour nous embêter, c'est pour pouvoir bien nous protéger. Parce que si nous avons sur notre corps, dans notre maison, dans notre voiture, des choses qui appartiennent à Satan, mais Dieu ne pourra pas bien nous protéger. Mais si notre vie entière est à Dieu, Eh bien, vous savez quoi, mes amis? Quel que soit mon nom qui tire en l'air là, rien pas qu'à y arriver. Et ce que je vous dis là, je pourrais vous raconter des expériences. Des expériences où on a tenté de jeter des sorts à des enfants de Dieu. Mais le plus souvent, sort là qu'à virer les mouna qui voyaient là. Oh, mes chers amis, peut-être que nous avons reçu un enseignement quand nous étions jeunes. Peut-être que nous avons été introduits dans des choses. Mais ce soir, le Seigneur parle. Et le Seigneur dit, mon enfant, sanctifie-toi. Mon enfant, purifie-toi. Mon enfant, accepte de m'appartenir. Accepte de ressembler à ton Sauveur. Accepte de vivre une vie où il n'y a aucun symbole, aucune chose qui voudrait dire qu'en quelque part, tu adhères à des choses de l'Antiquité. Appartiens à ton Dieu. Purifie-toi. Rejette tous les dieux étrangers. Donne ta vie à Jésus. Sois baptisé. Suis la parole de Dieu. Observe les commandements du Seigneur. Vis selon sa loi. Vis dans l'amour du Seigneur. Et le Seigneur te dit, je te garantis qu'aucune des plaies d'Égypte ne te frapperont. Quelle que soit la personne ici ce soir qui a besoin d'une délivrance, qui a besoin d'une vie protégée, il ne faut pas chercher ça dans des gris-gris, dans des amulettes. Il faut donner ta vie à Jésus. Il faut sanctifier ta vie et tu verras comment tu seras béni. Oh mes amis, cela a été peut-être dur à entendre pour certaines choses, mais Jésus a parlé. Jésus m'a parlé. Il m'a parlé, Jésus. C'est Jésus qui nous a parlé. C'est la Bible qui a parlé. Et vous pouvez vérifier par vous-même. Prenez vos Bibles, prenez vos encyclopédies, faites des recherches, mais vous verrez, Jésus a parlé. Alors la question est simple. Est-ce que j'accepte ce que Jésus dit ou est-ce que je continue dans mes traditions? Est-ce que j'accepte d'être dérangé, bousculé ou est-ce que c'est Dieu qui doit se conformer à mes traditions? Non. Ce soir, je réponds, Jésus a parlé. Jésus a parlé et je me soumets à la parole de Jésus. Si vous voulez bien, levons-nous et chantons cela. Je me croyais être délaissé dans ce monde si troublé, mais ce soir, je sais que je ne suis pas délaissé car Jésus m'a parlé. Père et notre Dieu, la Bible dit que ta parole est une épée à double tranchant, une épée qui partage le bien du mal, une épée qui pénètre au très fond de nous-mêmes, de notre être, et qui est là pour tailler ce qui n'est pas de toi. Ô Seigneur Dieu, que ta parole soit ce soir l'épée qui sort de la bouche de Jésus. Que ta parole ce soir puisse, si elle nous a blessés, que nous puissions savoir que lorsque Jésus parle, que ce n'est pas pour nous faire du tort, mais Jésus a parlé, c'est pour me guider. Jésus a parlé, c'est pour me protéger. Jésus a parlé, c'est pour me conduire dans la véritable adoration. Jésus a parlé, c'est pour que je lui appartienne. Jésus a parlé pour que mon image soit l'image d'un chrétien. Jésus a parlé pour que je sois moi-même à l'image de mon Sauveur. Ô Seigneur, si cela a été difficile à entendre, nous croyons que tu l'as quand même dit pour notre salut et pour notre bonheur éternel. Ô Seigneur Jésus, que ta parole soit aussi un baume en ce soir et que ta parole nous fasse voir que nous ne quittons rien et nous ne perdons rien avec toi. Et si jamais nous nous dépouillons de quelque chose, c'est pour gagner plus. C'est pour gagner la paix. C'est pour gagner la sérénité. C'est pour gagner la joie. Parce que nous savons, Seigneur, que lorsque nous sommes avec toi, nous ne sommes pas menacés par les plaies. Nous ne sommes pas menacés par les calamités. Nous ne sommes pas menacés par le quimbois. Nous ne sommes pas menacés par les sorts. Nous n'avons pas besoin de gris-gris. Nous n'avons pas besoin d'amulettes. Mais si nous sommes avec Jésus, je puis tout par celui qui me fortifie. Si nous sommes avec Jésus, rien ni personne ne peut contre nous, car lorsque nous sommes dans les bras de Jésus, nous sommes en sécurité. Seigneur, fais-nous comprendre que si nous abandonnons quelque chose, c'est pour être sauvés, c'est pour aller mieux, c'est pour être guéris. Seigneur, fais-nous comprendre que nous ne pouvons pas vouloir tes bénédictions et en même temps rejeter tes ordonnances. Nous ne pouvons pas vouloir ta parole qui nous fait du bien et ne pas vouloir ta parole qui nous invite au dépouillement et à la consécration. Ô Seigneur Dieu, fais du bien à tous ceux qui ont entendu ta parole ce soir. Et alors que nous partirons, tu nous ramèneras demain soir, si Dieu veut. Et alors que nous partirons, tu resteras avec chacun de nous et tu vas nous parler pendant la nuit, pendant la journée demain. Tu vas nous visiter, s'il te plaît, Seigneur. Tu vas faire revenir ces paroles dans nos cœurs, dans nos pensées. Et si nous n'avons pas été convaincus par ton Saint-Esprit, éclaire-nous, illumine-nous et permets-nous de comprendre ta parole. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel nous fasse du bien et qu'il nous raccompagne au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen.